Alors, j'ai eu une conversation très intéressante cette semaine avec Lucie. Lucie a 5 ans et des poussières. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'elle m'a demandé, on partait faire les courses, mais elle m'a demandé pourquoi il y avait une ligne blanche au milieu de la route et par moments des pointillés. Donc, j'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais. C'était pas toujours évident et pourquoi il y a des flèches et pourquoi, bon là, la route elle était vide, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde sur la nationale, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de doubler alors qu'il n'y a personne, etc., etc. Bon, du coup, ça, c'est pas évident, hein, tout expliquer. Et ça m'a fait réfléchir, parce que bon, quand on a repris la voiture la deuxième fois, on a recommencé, et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'on compare souvent la Bible au code de la route. La comparaison n'est pas parfaite, comme toutes les comparaisons, hein, il ne faut pas la pousser trop loin. Mais il y a quelque chose de vrai. Si Olivier, donc le papa, et Sonite, la maman de Lucie, explique le code de la route à Lucie, elle va, avec les années, en connaître un petit peu plus. Et si à son tour elle transmet ça à ses enfants, mais que aucun des trois ne lit le code de la route, ça risque d'être pas mal déformé, d'être peut-être pas très bien adapté, et ça peut être dangereux. J'ai pensé à ça, je me suis dit oui, tel que j'ai expliqué, est-ce qu'elle a bien compris, est-ce que voilà, la transmission orale, c'est important, il faut le faire. Mais ça ne suffit pas. Et j'ai pensé par rapport à la Bible, c'est la même chose. Très souvent, et c'est le danger des deuxième et troisième générations de chrétiens, souvent la première génération, elle s'accroche à lire sa Bible. Moi, on a gardé religieusement, ma sœur et moi, on a gardé la première Bible de maman. Et maman lisait énormément sa Bible. Sa Bible est franchement usée. Et ce n'est pas comme les miennes, elle ne s'est pas usée dans les sacs à main. Elle s'est vraiment usée à force d'être utilisée. Et la première génération, souvent, va s'attacher à sa Bible et la lire et la relire et la méditer, hein, comme les vaches qui ruminent. La deuxième, bah, elle reçoit des parents, le dimanche, l'école du dimanche, gna gna gna. Et puis la troisième, ça craint quoi ? Parce qu'on a du mâchouillé, de mâchouillé, d'original. Et là, ça devient embêtant parce qu'on perd, on a l'impression de connaître sa Bible. Parce qu'on en a entendu tous les dimanches, à l'école du dimanche, on a entendu parler à la maison, gna gna gna. Et finalement, on a même une impression parfois d'être un peu saturé. Et en fait, on ne connaît pas bien le texte. Et on arrive, alors là, je parle sur trois générations, mais comme je faisais la culture biblique dans l'école catholique, j'ai pu voir ce qui restait après X générations de catholiques. Ben, il ne restait rien. Il y en a encore qui me posaient la question si le Joseph de l'Ancien Testament, c'était le même que le père de Jésus, le père adoptif de Jésus, etc. Voilà, ça vous choque. Hein. Mais voilà, on arrive à des trucs insensés parce qu'on a perdu le contact avec le texte. Et c'est pour ça que je vais être hyper embêtante cette année sur revenez au texte, lisez le texte. Les catholiques, au moment de Vatican II, ont ressenti ce besoin de dire on va revenir au texte, on va revenir aux sources. Il était temps, ils avaient complètement perdu le contact. Hein, et ils pouvaient vous justifier les médailles, les pèlerinages, les machins, parce qu'ils n'avaient jamais lu que c'était interdit dans la Bible, en clair. Donc, vous voyez, on peut dévier très sérieusement si on s'éloigne du texte et si on se contente de la transmission. Ah, oh, bah oui, mes grands-parents, mes parents, voilà, me l'ont dit, les monitrices, le dimanche, j'essaie d'écouter deux, trois phrases du pasteur, et puis, voilà, bon, ça fait le stock, quoi. Et attention, parce que si on perd le contact avec le texte, on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas. Et donc voilà, je mets en garde surtout les plus jeunes, mais aussi les adultes qui, bon, à force d'entendre des prédications, tout ça, on a l'impression qu'on sait plein de choses, mais en fait, on a perdu le contact avec le texte. Donc, faisons attention à ça et accrochons-nous au texte. C'était aussi le message de base. C'est aussi le but de ces mois de la famille. C'était de vous encourager à revenir au texte pour vous-même. C'est-à-dire pas vous contenter d'écouter moi ou quelqu'un d'autre exposer quelque chose sur un texte, mais vraiment vous revenir au texte. Travaillez votre texte. Alors, ça peut vous sembler un peu casse-pied au début, mais vous allez voir, vous allez être étonné de trouver des trésors. Hein, j'ai fait une très belle citation que j'ai soigneusement gardée ici. Vous avez dit des choses fantastiques. Largement aussi bien que dans mon commentaire biblique ou un de ceux que j'utilise. Donc, n'ayez pas peur, la Bible n'est pas un livre normal. On peut soi-même trouver des diamants dedans. D'accord, les autres en trouvent, amen, tant mieux. Mais vous aussi, pour vous, vous pouvez en trouver. Et plus vous prendrez l'habitude de lire la Bible pour vous-même, au lieu de vous contenter de ce que vous avez l'impression de savoir, mieux ça sera. Et mieux vous connaîtrez votre code de la route, moins vous risquez d'avoir de problèmes sur la route. Et c'est un petit peu la même chose, même si la comparaison n'est pas parfaite. Ok ? Donc, merci pour tous ceux qui ont déjà fait ce travail, il y a ceux qui l'ont fait, qui ne l'ont pas envoyé. Mais moi, ça me fait plaisir de voir ce que vous trouvez aussi, parce que c'est super. Voilà, alors on en était, chapitre 23, au verset 13. On a vu qu'après avoir délivré la ville de Keïla, David et ses 600 hommes étaient restés un petit peu sur place. Je pense qu'après la bataille, ça leur a fait du bien. Ils ont pu manger à leur faim de tous les animaux qu'ils avaient récupérés aux Philistins. Ils ont passé un bon moment apparemment. Mais voilà, Saül apprend, toujours comme on a dit la dernière fois, hein, par des bonnes volontés qui leur enseignent. Il avait son FBI. Saül apprend que David est là et il est décidé d'en découdre avec lui de nouveau. Et il pense que David est coincé, c'est marrant, dans une ville qui a des murailles et des portes. C'est rigolo ce verset. Pourquoi Saül pense comme ça ? Eh bien, parce que Saül, c'est un très bon stratège. Et il se dit un soldat aussi célèbre que David. Et rappelez-vous qu'il avait mené avec succès toutes sortes d'expéditions militaires pour Saül. Il se dit, un soldat de ce calibre, il ne se laisserait pas coincer dans une ville. C'est un bon stratège, David, c'est un bon militaire. Donc, conclusion, la conclusion qu'il ne faut jamais faire avec Dieu. Donc, ben c'est Dieu qui me le livre entre les mains. Parce que naturellement, il n'aurait pas fait ça, David. C'est un trop bon soldat, il n'est pas idiot. Il ne va pas se coincer dans une ville avec des portes, etc. Je vais pouvoir faire le siège. Non, non, non. Donc, faites attention aux conclusions qu'on fait parfois. Donc, c'est Dieu qui le livre entre mes mains. Dieu l'a abandonné. Alors, j'ai regardé un petit peu dans différentes versions. Certains, Dieu l'a... Alors, une traduction grecque dit « il l'a vendu ». Quelque part, Dieu l'a rejeté, quoi. Il me l'a vendu. C'est marrant, cette traduction. Il me l'a vendu. Conclusion de Saül. Il prend ses désirs pour la réalité. David n'a plus la faveur de Dieu. S'il est assez bête pour s'enfermer dans une ville, c'est qu'il n'a plus la faveur de Dieu. C'est qu'il ne pense plus correctement. Donc, Dieu le livre entre mes mains. Voyez un petit peu. Et faisons attention de ne pas justement prendre nos désirs pour la réalité et de ne pas projeter sur les autres des choses qui sont en nous. Par exemple, Saül, il va dire qu'il n'a plus la faveur de Dieu. C'est curieux dans la bouche de Saül, hein, alors que c'est lui qui n'a plus la faveur de Dieu. Mais il arrive à retourner la chose, tellement il prend ses désirs pour la réalité. Il y a un deuxième point qui est important, c'est les circonstances. Alors souvent, hein, on cherche tous à faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un grand thème dans les églises. Hein. Comment je veux savoir la volonté de Dieu pour ceci, pour cela, pour mon travail, pour mes études ? C'est compliqué parfois. Alors, souvent, on dit, je vous avais déjà dû entendre ces formules, la parole de Dieu, la paix, les circonstances, il y en a quelques autres, qui sont des repères pour nous aider. Les circonstances sont dangereuses. Les circonstances toutes seules ne peuvent pas prouver l'approbation de Dieu. Vous savez, le diable sait bien nous dérouler le tapis rouge. Il sait bien. Pour qu'on se dise, c'est bon, la voie est ouverte, c'est magnifique, je peux y aller. Il faut absolument avoir d'autres repères que les circonstances. Il y a des choses qui peuvent nous sembler vraiment faciles, tout ce qu'on voulait, etc. Et puis en fait, derrière, ça ne va pas être bon. Le problème, c'est que Dieu le sait, mais nous, on ne connaît pas l'avenir. Alors, effectivement, le premier point, c'est toujours la parole de Dieu. D'où l'utilité de bien la connaître. On va rapprocher notre cas de tel ou tel personnage de la Bible et dire oui, bon, là, Dieu a répondu, mais voilà. C'est important de savoir si ce qui nous est proposé ou ce qu'on veut correspond à ce que dit la parole de Dieu. Alors, parfois, vous allez dire, oh oui, mais attends, si on compare un peu toutes nos situations de vie à la parole de Dieu, est-ce que c'est pas un peu légaliste, quoi ? Gna gna gna, Dieu veut pas, gna gna gna, Dieu veut, enfin. Ah, est-ce que la parole de Dieu, parfois, peut pas être un petit peu trop dure ou... Il y a des principes fondamentaux dans la parole de Dieu. D'où l'utilité de bien la connaître. Il y a des principes fondamentaux qu'on peut dépasser, certes, un peu comme la ligne blanche sur la route, mais on peut le regretter aussi. Je crois qu'on est en sécurité quand on respecte les principes que Dieu nous a donnés. On peut les dépasser, mais ça peut être problématique parfois. La parole de Dieu, c'est important. La paix. La paix dans nos cœurs. Ça, c'est pas toujours facile à trouver non plus. Quand on a un gros projet auquel on tient à cœur, la paix, on va se dire, oh, j'ai la paix parce que je sens que ça va aller bien. Et puis, on peut se forger une certaine paix. Mais bon, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'on peut être très agité sur quelque chose. Et ce n'est pas toujours bon signe. Donc, si déjà on a le signe de la parole de Dieu, après le repère, on va dire, la paix, les circonstances, ça joue effectivement, à condition d'avoir les deux premiers. Et puis il y a aussi autre chose, c'est la volonté de Dieu qui grandit dans nos cœurs. C'est David Wilkerson qui avait relevé ça, et je l'ai lu quand j'avais 16-17 ans, et c'est resté dans ma tête parce que c'est tellement vrai. En anglais, il dit « it boils up ». C'est comme quelque chose qui boue, et vous savez, l'eau, elle commence à bouillir, elle fait des bulles, puis boum, 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 ça, de plus en plus, ça peut même déborder, surtout si c'est du lait. Et quand c'est, quelque chose est dans la volonté de Dieu, il y a ce côté... qui augmente, qui augmente, qui augmente. Parfois, on peut avoir un projet et on est super enthousiaste le jour numéro 1. La semaine numéro 2, c'est déjà descendu. Et puis le mois numéro 3, on n'y pense plus. Bon, souvent, quand ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui, au contraire, va augmenter. Le temps passe, mais le projet, la chose prend de plus en plus de place. Dans la paix, pas dans l'agitation, mais dans une paix, on sent, ah oui, de plus en plus, de plus en plus. Ça commence à prendre de l'importance. Après, il y a aussi les conseils de sagesse. Alors là, j'ai bien dit les conseils de sagesse. Parce que c'est toujours délicat de prendre conseil auprès des autres humains. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ceci étant, j'ai quand même remarqué que si on prend ces conseils auprès de gens qui sont bien fondés dans la parole de Dieu, toujours pareil, qui connaissent bien la parole de Dieu, qui ont une expérience avec le Seigneur, qui ont une sagesse aussi, eux-mêmes, dans leur vie, c'est bénéfique. Ça ne peut pas suffire non plus, parce qu'un homme peut toujours se tromper. Peu importe s'il est très bien, mais il peut aussi se tromper. Donc, ça fait partie des repères. C'est un repère de plus. Mais là, il faut être très sage, effectivement, et pas prendre ses conseils auprès des gens qui, on est sûr, vont être d'accord avec nous, parce que, voilà, ils peuvent le faire par amitié. Donc, voilà, la Bible dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Et c'est important aussi. Vous voyez que c'est quand même assez souple. Hein, on ne peut pas être légaliste avec la volonté de Dieu. Il y a quand même une souplesse. Et puis, les confirmations. Alors, on l'a vu la semaine dernière. David ne va pas hésiter à reconsulter Dieu. Et vous l'avez consulté une fois pour votre projet. N'hésitez pas à le refaire une deuxième fois. Et n'ayez pas peur de dire, Seigneur, je suis désolée, c'est pas toi qui en cause, c'est moi, c'est mes oreilles. Donc peux-tu me confirmer ? Parce que je voudrais pas me tromper, je veux vraiment le faire pour ta gloire. Il s'agit pas de prendre Dieu avec mépris, hein, mais vraiment de dire, écoute Seigneur, tu sais, je suis pas toujours sûre de mes oreilles, donc est-ce que tu peux me confirmer ? Et puis bien sûr, ce qui est capital, je crois que je l'ai laissé en dernier, mais c'est la recherche de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Passer du temps dans le jeûne et la prière. Quand on a vraiment des très gros projets, c'est important de rechercher le Seigneur personnellement dans le jeûne et la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et ça, on l'a tous expérimenté. Je suis sûre que si je demandais des témoignages, vous en auriez tous. Des moments où on ne savait pas trop quoi faire, on a prié, et puis on a lu notre Bible, et il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux. Hein, donc je crois que, voilà. Vous voyez, c'est pas seulement les circonstances. Et notre Saül, tout ce qu'il a vu, c'est les circonstances. Donc, Dieu, avec juste un facteur. Alors, si je vous les recite, hein, parole de Dieu, paix, la volonté de Dieu qui grandit dans nos cœurs, les conseils de sagesse, les confirmations, la recherche de Dieu dans la prière, ça fait beaucoup. Et lui, il n'en a pris qu'un. Les circonstances. Dangereux. Effectivement, il s'est planté. Mais bon, pour Saül. Du coup, Saül, conscient que c'était Dieu qui avait forcément amené David entre ses mains, il prépare ses hommes pour une expédition militaire. 3000, hein, quand même. David, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte le Seigneur avant d'agir. Toujours. C'est quand même la base. Hein. Je l'ai mis en dernier, mais en fait, c'est le numéro 1. David n'est pas du tout dans la même logique et dans le même raisonnement que Saül. Il n'est pas dans la stratégie humaine. Oh, voyons, pour un bon militaire, il n'aurait jamais dû se laisser coincer dans une ville, etc. Il n'est pas du tout là-dedans. Il laisse Dieu s'exprimer. Parce que la situation est grave. Il y a la vie de 600 hommes qui est en cause. Et puis peut-être la ville aussi. Donc il va consulter le Seigneur. Quelqu'un a fait remarquer, Dieu répond et ne minimise pas le danger. Je ne sais plus qui c'est, mais il va se reconnaître sans doute. Dieu répond et ne minimise pas le danger. Et ça, je n'avais pas remarqué. C'est vrai que Dieu ne minimise pas. Il est très factuel. Il n'excuse pas, mais il ne dramatise pas. Oui. Non. Ils te livreront. Oui. Non. Ça, c'est curieux. Hein, il est très factuel dans ses réponses. Et, il ne dit pas, mais tu sais, ce n'est pas de leur faute. Ils ont peur, les gens de Keïla. Ils vont te livrer. Mais non, non. Il ne minimise pas, il dit simplement les choses telles qu'elles sont. J'ai été assez intriguée par cette réflexion parce qu'elle est très, très vraie. Il est très, très factuel, le Seigneur. Ben, la vérité, hein, les faits, la réalité. David, lui, il en tire les bonnes conclusions. Il décide de partir avec toute sa troupe. Alors, quelqu'un a remarqué là, très justement, David n'est pas une tête brûlée. Pas mal! Il ne prend pas de risques inutiles. Il fuit pour ne pas tomber entre les mains de Saül. Ben oui, on aurait pu dire, David est un homme de Dieu. Il n'a pas eu peur de Goliath. Va-t-il avoir peur de Saül avec sa troupe? Allez, il y va, par la foi. Dieu l'a aidé une fois, c'est le même Dieu qui l'accompagne. Il va l'aider la deuxième fois. Pas une tête brûlée, il reconsulte Dieu et il prend les bonnes décisions. C'est curieux quand même. Ce n'est pas une réaction tout à fait humaine classique. Hein. Il n'est pas sur un rail. À chaque fois, il reconsulte Dieu. Et ce n'est pas une tête brûlée. Il aurait vraiment pu effectivement prendre des risques inutiles, dire « Dieu est avec moi, j'y vais, je fonce !» Non, non. Je prends soin de ma troupe. Et quelqu'un a fait remarquer qu'il fait sa part. Il fait sa part. Dieu est avec lui pourtant, mais lui, il emmène sa troupe à l'écart. Il part, il fait sa part. Il n'est pas dans la passivité. Seigneur, tu m'as toujours défendu, tu m'as donné la victoire sur Goliath. Je suis à Keïla, j'y reste et je sais que tu me protégeras. Il aurait pu faire comme ça, mais non, pas du tout. Ni tête brûlée, ni passif. Il emmène sa troupe, allez les gars, on s'en va. On ne va pas prendre de risques inutiles. Ça m'a fait penser à Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Jésus, les pharisiens essayaient toujours de l'attraper. Et combien de fois il est écrit, hein, Jésus leur échappa. Ou Jésus... pas ça, voilà. Et vraiment, c'est impressionnant. D'un seul coup, Jésus s'en va. Ah mince, où est-ce qu'il est? On voulait l'attraper. Jésus, tant que ce n'était pas son temps, il n'est pas resté. Je suis là, vous pouvez me prendre. Non, il a fait sa part et il est parti. Jésus a fui. Ça fait drôle quand on dit ça comme ça. Lui, le Fils du Dieu Tout-Puissant, il n'a pas pris de risques inutiles. Quand il a fallu les prendre, il les a pris. Mais quand ce n'était pas son temps, ils essayaient de l'attraper. Il leur passa entre les mains. Voilà, hop. Il fait sa part. Donc ça, c'est important aussi. Parce que quelquefois, on se trouve dans des circonstances du Seigneur. Je vais rester là, par la foi. Je vais tenir, tu es avec moi. Et parfois, le Seigneur dit, allez, bouge-toi, dégage, reste pas là. Prends pas de risques inutiles. Bon, c'était intéressant. Voyez que je découvre des tas de choses hein, dans vos textes. En plus, quelqu'un dit aussi, il prend soin de lui-même et de ses hommes. Il est conscient de protéger ses hommes. Et en prenant soin de lui-même, il prend aussi soin de ses hommes. En prenant en compte sa propre sécurité, il protège aussi la ville. Alors là, quelqu'un a soulevé un problème qu'on ne peut pas aborder, ce serait trop long, mais c'est les interactions entre l'intérêt collectif et l'intérêt personnel. Il y en a forcément. Et on a beau dire « c'est ma vie », nos erreurs ou nos difficultés vont aussi pénaliser les autres. Même si on dit « c'est ma vie ». On ne peut pas vivre séparément des autres. Et là, il le savait très bien, David, s'il mettait sa vie en jeu, il mettait la vie des 600 hommes en jeu, il mettait la ville entière. Alors nous, on ne met peut-être pas une ville entière, mais bon, je pense que certains industriels peuvent mettre une ville entière en danger s'ils ne respectent pas certaines règles. Donc vous voyez, on a tous, à différents niveaux, besoin de faire attention à notre vie pour aussi protéger les autres. En se laissant attaquer par l'ennemi ou simplement par présomption, on peut pénaliser une communauté. Famille, école, église, travail. Ça, vous le savez très bien au travail. Hein. Si quelqu'un ne respecte pas les règles, certains produits ou autres, ça peut mettre toute une usine en péril. Donc, à l'hôpital, pareil. Je pense que nos infirmières le savent. Une mauvaise manip en hôpital peut entraîner des grosses difficultés pour tout un service. Hein. Donc, voilà, on n'est pas isolé, qu'on le veuille ou non. On a beau dire c'est ma vie, ça ne regarde personne. On n'est pas isolé. À moins de vivre sur une île déserte, et encore. Il y a un autre point aussi qui a été soulevé par quelqu'un et qui était intéressant, je n'y avais pas pensé. David n'a pas peur de se ridiculiser en fuyant devant Saül. Ah, il n'y avait pas pensé à ça. En disant à ses 600 hommes, « Allez les gars, on s'en va, on ne reste pas là parce qu'ils nous courent derrière, on s'enfuit. » Ces hommes auraient pu dire, « Moi, t'es pas une poule mouillée, toi, quoi ?» Non mais attends, on t'a vu avec Goliath, mais qu'est-ce qui te prend là? Tu perds ton tonus là. C'était des hommes râleurs en plus. C'était des hommes, vous savez, c'était pas n'importe qui suivait David. Enfin, c'était à certains égards n'importe qui, mais voilà, c'est des gens qui s'exprimaient en tout cas. Hein. Et il a pas peur de se ridiculiser. Oui, on va fuir devant Saül. Ah bon? Ça se fait pas ça, hein? Un soldat. Prend ses jambes à son cou, ça fait mauvais effet quand même. Il aurait franchement pu provoquer le mépris de ces hommes. Il aurait pu. Et parfois, Dieu nous demande de prendre ce genre de risque. Au risque d'être méprisé, au risque d'être moqué, ridiculisé. Mais si parfois Dieu, lui, nous demande de partir, parce que c'est bien ce qui était clair, hein, oui, ils te livreront. Conclusion s'imposait. Il fallait être sage. Et tant pis si on est ridicule. Le tout, c'est de faire ce que Dieu nous demande. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'on est quand même très, très attaché à l'image qu'on donne aux gens. Et surtout quand on est jeune, mais je pense que ça reste encore quand on est vieux. Mais on est quand même soucieux de l'image et se dire, oh là, je vais être ridicule. Bah oui, mais... Tu sauves ta vie, tu sauves la vie des copains aussi. Donc il aurait pu provoquer le mépris. Merci d'avoir soulevé ça, je n'avais pas pensé. Et il a dû clairement, à mon avis, expliquer à ses hommes qu'est-ce que c'était que l'obéissance et la crainte de Dieu. Parce que je pense qu'ils n'auraient peut-être pas forcément accepté comme ça. Mais il a dû bien leur expliquer. Je pense qu'il a dû être clair. Quand on lit les psaumes, je crois que ça ne fait pas trop de doute. Il a dû bien expliquer pourquoi il fuyait. Verset 14, c'est un verset qui fait réfléchir aussi. David resta au désert, dans les fortins. Il resta sur la montagne, dans le désert de Ziph, encore désert. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Il en dit beaucoup, ce petit verset. Et là, quand je vous dis que la Bible n'est pas un livre normal, là, dans un tout petit verset, vous avez plein de choses qui viennent à l'esprit. D'abord, David resta au désert. Alors, si on regarde une carte, on voit que David avance de plus en plus vers le sud. Plusieurs l'ont remarqué, d'où l'importance du « où » dans l'observation. Et félicitations à tous ceux qui l'ont remarqué. Il descend vers le sud, dans des zones de plus en plus désertiques. Alors, je me suis amusée à regarder dans le dictionnaire biblique ce qu'ils entendaient dans la Bible par « désert ». Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand on me dit « désert », je pense « Sahara ». voilà, des dunes de sable. Et quand on était aux États-Unis et qu'on était en Arizona et qu'on nous disait que c'était le désert, j'étais un peu désert. Attends, il y avait plein de choses dans ce désert. Il y avait des bêtes et plein de lapins en plus, des jackrabbits, des lièvres. C'est infesté de lièvres. Et je dis, je suis dans le désert là. Bon, c'est vrai qu'il y avait plein de cactus, mais voilà. Là, notre notion de désert, c'est un petit peu trop le Sahara, hein, les dunes de sable. Ce qu'on appelle désert en général, géographiquement parlant, c'est des zones, alors, je vais vous lire ce que j'ai lu, non cultivées, où les bêtes sauvages errent librement. Solitude, désolation, région aride, avec quelques pâtures par endroit. Quelques pâtures. Donc, chaque fois qu'on voit le mot désert dans la Bible, hein, attention, sortons un peu de nos dunes de sable. Dans la Bible, surtout, le désert est un temps d'épreuve. C'est à la fois un lieu et un symbole. C'est un temps d'épreuve, de formation, on dirait d'école. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans. Il n'arrivait pas à prendre sa leçon, donc allez, on va réviser. Les pauvres. Et c'est Joyce Meyer qui disait, si vous voulez sortir vite du désert, essayez d'apprendre très vite vos leçons. Elle a raison. Jésus était dans le désert. Moïse a été dans le désert. Si vous regardez un peu les personnages de la Bible, ils ont eu soit des déserts physiques, matériels, ou des déserts spirituels, mais il y a eu des périodes de désert. Le désert est un temps d'épreuve et de formation. Alors, je crois que... Qui est-ce qui a fait cette formation? C'est pas toi, Alexis, par hasard, qui, avec le patron, est allé dans une zone désertique pendant un certain temps. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Et c'était dans le but de souder l'équipe. Voilà. Voyez que les gens du monde ont compris aussi l'intérêt du désert. Et ça m'est revenu à l'esprit quand j'ai lu ça, je dis, il faut que je demande à Alexis, mais j'ai oublié de te demander ce matin. C'est frappant qu'ils ont compris l'intérêt de ces zones désertiques, où on n'a pas tellement de distractions, où on veut se concentrer sur certaines valeurs. Alors, je ne sais pas quelles valeurs ils voulaient faire passer, mais je pense au niveau de souder l'équipe, etc. C'est marrant que les gens du monde l'ont compris et que nous, chrétiens, moi, la première, si je commence à approcher d'une zone de désert, je ne suis pas contente du tout. Mais pas du tout, du tout. Alors, le monde fait ça exprès. Ils vont quitter le confort de notre belle France pour aller, c'était où, Alexis ? Voilà. Pour chercher des valeurs, en quelque sorte. Hein ? Pour chercher des valeurs. Et nous, quand Dieu nous emmène dans une zone un peu désertique, dans un moment dans notre vie, on est là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, non, vous êtes certainement plus sanctifiés, mais on râle. Mais Seigneur, pourquoi je suis là? Mais c'est affreux, est-ce que tu m'as abandonné? Pourtant j'ai prié, blablabla. Hein? Alors, peut-être vous êtes plus sage que moi, mais moi j'aime bien râler un peu. Donc c'est important, si le monde en a conscience, attention, les temps de désert nous sont bien utiles. J'aime pas dire ça, mais n'empêche que c'est la vérité. Le verset 14 dit « Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. » Dieu protège David dans tous ses malheurs. Mais quelqu'un a posé une question. Vous voyez que vous avez dit beaucoup de choses, hein ? Quelqu'un a posé cette question. Dieu l'a tout le temps protégé. Pourquoi ne pas l'épargner ? Il se donnait du mal pour protéger notre David, là, à chaque fois. Pourquoi il ne lui a pas simplement épargné? Il est tout puissant. Alors ça, moi aussi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Que Dieu nous épargne toutes les difficultés. Ah, ce serait tellement bien. Tellement bien. L'emmener dans des zones de plus en plus désertiques. Mais il aurait pu trouver une autre solution. Bien sûr qu'il aurait pu. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas. Et j'ai repensé à ce verset, en lisant ce commentaire que vous avez fait, j'ai repensé à ce verset d'Osée. Osée 2, verset 16. Il est question là d'Israël, qui est considéré, comme vous savez, souvent symbolisé par une femme. « Moi, je la conduirai au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Ça veut dire que de la même façon que certains patrons français veulent instaurer certaines valeurs en allant dans le désert, Dieu va conduire ses enfants dans une zone désertique pour parler à notre cœur. Et moi, ce que j'ai envie de dire dans ce cas-là, mais Seigneur, parle-moi tout de suite, je t'écoute. Le désert de l'épreuve. Alors, je vais reprendre certains commentaires. Hein. Le désert de l'épreuve permet de connaître Dieu autrement qu'en théorie. Donc si vous êtes dans le désert de l'épreuve, dites bien, Seigneur, je t'écoute, je veux apprendre vite pour en sortir le plus vite possible. Ça permet aussi de se connaître soi-même. Alors ça, je crois que tous les... Bon, pas tous forcément, mais beaucoup de Français, d'écrivains, de scientifiques ont fait ces expériences du désert. Je pense à Monod, entre autres, il y en a d'autres. Se connaître soi-même, aller dans le désert pour se connaître soi-même. C'est connu, bon. Eh bien, c'est vrai aussi dans la foi. Si on n'est pas... Oui, merci. si on n'est pas distrait, on arrive à mieux se connaître. Dans le désert, ça, j'ai réfléchi à ça assez longtemps, les temps de désert nous permettent de mieux comprendre la souffrance. De mieux comprendre la souffrance des autres. Quelqu'un qui n'a jamais vécu de période difficile... Bon, mais t'as qu'à te bouger, hein. Oh, tu vas pas rester comme ça. Ouais. Mais si quelqu'un a vécu une période difficile, il va mieux comprendre la souffrance de l'autre. Il va mieux supporter les faiblesses et les failles des autres. Parce que quand même, c'est pas normal que les autres, hein, ils aient tel défaut. Moi, je l'ai pas. Donc, c'est pas normal qu'on l'ait, etc. Donc, supporter les failles et les faiblesses des autres. Après un temps de désert, on va être beaucoup plus proche, beaucoup plus susceptible de supporter les failles et les faiblesses des autres. À condition de ne pas tomber dans l'amertume. Parce que j'ai connu des gens qui ont traversé des périodes de désert, ou peut-être nous-mêmes parfois, hein, et puis au lieu de devenir plus tolérant, plus compréhensif envers les autres, on est dans une amertume noire. Et ça n'arrange pas les choses. Mais c'est notre choix. Le problème, c'est que l'amertume, c'est un choix. C'est toujours un choix. Je décide... De comprimer mes sentiments et il en sort un jus amer là. Et c'est pas bon. Mais si je choisis de rejeter l'amertume, ça va m'aider à accepter les failles des autres, à accepter les faiblesses des autres. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, il n'y a pas un doute là-dessus. C'est aussi une occasion de grandir. Et c'est pas une malédiction. Alors ça, j'aime pas dire ça. Parce que je trouve ça moche, le désert. Et quand Dieu nous fait passer par des périodes dures comme ça, je trouve ça pénible. Et dire comme ça devant le micro, ne vous en faites pas, c'est une occasion de grandir, c'est pas une malédiction. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à le dire aussi. Le problème, c'est que c'est la vérité, il faut le dire. Mais franchement, ça fait pas envie. C'est une occasion de grandir, c'est pas une malédiction. Je crois aussi que ça nous aide à pas être naïf. David, ça l'a aidé à pas être naïf. David était un petit berger. Pour lui, les ennemis, c'était les ours et les lions. Il fallait prendre soin de ses moutons, etc. Il fallait qu'il apprenne à pas être naïf. Il a été confronté à la méchanceté humaine. Ça, je sais aussi que quelqu'un l'a relevé. Il fallait qu'il soit confronté à la trahison, à la méchanceté humaine, à la dureté, à la vengeance, enfin, à toutes sortes, à la jalousie. Pff, ça fait pas plaisir. Hein. Il fallait qu'il y soit confronté. Il a été un bien meilleur roi après avoir vécu tout ça. Et il n'avait plus d'illusions sur le cœur humain. D'ailleurs, pour prendre certains versets des psaumes. Voilà. Et puis, une autre chose. On en sort avec plus d'humilité, évidemment, du désert. Mais on en sort aussi avec un cœur brisé. Alors, je me suis dit, vous, enfin, un cœur brisé. Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alors, il faudrait savoir. Hein. Oui. Je pense qu'il faut faire attention à ce mot-là dans la Bible. Avoir un cœur brisé, hein, ça peut être un peu interprété bizarrement. Parce que la Bible dit, l'Éternel, c'est David d'ailleurs, l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Bon, ça passe. Mais au psaume 51:19, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas. Alors là, on n'y est plus, quoi. Bon, alors il est venu guérir les cœurs brisés ou il est venu pour briser les cœurs qui étaient entiers? Vous savez, parfois dans la Bible, il y a des choses comme ça, il faut faire attention, il faut avoir un peu de... prendre ça avec des pincettes. Parce que la notion de cœur brisé, là, c'est le contraire, je pense, hein, m'avancer un peu, c'est le contraire du cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, hein, ce verset est là aussi. Et le cœur de pierre, vous imaginez, on va imaginer un cœur, hein, en granit, bien dur. Si j'ai un cœur comme ça, bah, il ne va pas être souple. Il ne va pas être affectueux. Il ne va pas être humble. Vous imaginez, cœur de pierre. Eh bien, Dieu va casser ce cœur de pierre. Il va le casser. Et il va en faire quelque chose de souple. Il va mettre un cœur de chair, quelque chose de souple, de vivant. La pierre, c'est mort. Il va en faire quelque chose de vivant. Le cœur brisé, c'est justement ça. Dire, voilà, tout ce que j'ai accumulé pendant ma vie, toutes mes façons de penser, hein, tout ça, c'est solide, hein, comme du granit. Bah, tout ça, Dieu va le mettre en morceaux pour donner un cœur de chair, un cœur brisé. Un cœur qui va comprendre et Dieu et les autres, qui va être beaucoup plus souple entre les mains de Dieu. Et ça, alors là, je suis sûre que vous l'avez remarqué autant que moi, quand on rencontre des hommes et des femmes de Dieu, pas nécessairement des gens célèbres, ça peut être des gens très effacés, mais qui ont vécu ces temps de désert, qui ne sont pas rentrés dans l'amertume, et qui ont vraiment profité de ces temps de désert pour connaître Dieu, cette souplesse, cette douceur qui en sort, cette humilité. Et ça se voit et ça se sent. Et on se sent bien avec ces gens-là. Et c'est pour ça que pour Dieu aussi, c'est agréable, un esprit brisé, un cœur brisé. C'est-à-dire, ce n'est plus « moi je pense, moi je veux, moi je suis ceci », mais « Seigneur, ce que tu veux faire de moi ». C'est ça. Hein. Donc n'allez pas imaginer que Dieu est là avec un gros marteau pour mettre votre cœur en pièces. Non, il est là pour réparer les cœurs brisés. Mais il est là pour nous remplacer ce cœur de pierre par un cœur de chair. Alors dans le désert, on y reconnaît aussi les amis que Dieu nous envoie. Alors qui sont les vrais amis? Ceux qui vous disent « c'est bien, t'es le meilleur » Non. Les amis que Dieu nous envoie, alors là vous l'avez en clair dans la Bible, « ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. » Qui sont nos amis? Ceux qui affermissent notre courage en Dieu. Souvent dans les moments de désert, et là moi je parle aussi en connaissance de cause, hein, j'ai eu mes moments de désert et j'ai accompagné des gens dans le désert. Et dans le désert de l'épreuve, parfois les paroles sont insuffisantes. Dans le désert de l'épreuve, nos paroles humaines, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Quand quelqu'un traverse un deuil, traverse une maladie, des gros soucis de travail, etc., qu'est-ce que nos paroles peuvent apporter? Souvent, elles sont insuffisantes. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'affermir le courage en Dieu. Et là, on peut apporter quelque chose. Écouter, compatir, prier, rappeler qui est Dieu et quel est son plan. C'est ce que Jonathan a fait. Il s'est pas gêné, Jonathan. Vous voyez? Quand il est venu, il a raffermi son courage en Dieu. Voilà ce qu'il lui a dit. Sois sans crainte. Wow. Quand on a 3000 hommes de guerre à vos trousses et qu'on n'a que 600 avec soi, sois sans crainte. Ça fait léger, hein? Oui, c'est fini. Ça fait un peu léger. Il sait très bien que sans Dieu, David ne pourra pas s'en sortir. Donc la seule chose qu'il va faire, c'est affermir son courage en Dieu. Pas dans des idées, pas dans des bonnes paroles, je t'aime, etc. Non, non, sois sans crainte. Rappelez-vous Josué. Jésus avec ses disciples, n'ayez pas peur. Dieu sait, il connaît nos limites et nos faiblesses. Il ne va pas nous juger, mais il nous encourage à nous confier en lui. On peut dire, Seigneur, tu sais, j'ai peur. Je pense que David ne s'est pas gêné. Si vous lisez les psaumes, hein, je crois que je vous avais donné les 30 et quelques et 54, je crois. On voit qu'il a peur, il le dit. Il le dit, mais Dieu ne le juge pas. Dieu connaît nos limites et nos faiblesses, mais il vient rassurer. Sois sans crainte. Saül ne pourra pas t'atteindre. C'est une parole qui était vraiment nécessaire quand on va voir ce qui se passe juste après. Hein. Il va être coincé, pas d'issue possible. Et je pense que cette parole a dû quand même rester dans son cœur. Saül ne pourra pas t'atteindre. Saül ne pourra pas t'atteindre. Il était juste à côté, il avait pris David en tenaille. Vous allez voir juste après, enfin on le verra la fois prochaine, mais Saül ne pourra pas t'atteindre. Parole extrêmement précieuse pour David, qui tombe à pic, parole hautement prophétique, mais pas une prophétie tirée du chapeau. C'était pas pour aller, console-toi, il t'aura pas, t'en fais pas. Non, non, c'était sérieux, ça venait du Seigneur. Parce que, pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce qu'elle venait confirmer les paroles de Samuel, tu seras roi sur Israël. Les prophéties doivent toujours être confirmées. Et moi, je serai ton second. Ah là 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 là, pauvre Jonathan. Ça me fait mal de lire ça. Il lui confirme qu'il lui cède sa place. C'est lui le prince. C'est lui le fils du roi. C'est lui qui doit succéder à Saül. Il lui confirme, c'est ok. C'est ok. Je serai ton second. Quelle humilité chez cet homme. Il lui confirme qu'il lui donne sa place et qu'il souhaite rester auprès de lui pour le soutenir. Ça, c'est malheureusement une parole qui vient de son cœur. Elle n'est pas prophétique. Dans la même bouche d'un homme de Dieu, vous en avez une qui est hautement prophétique et l'autre qui ne l'est pas du tout. C'est normal. C'est pour ça qu'on se met, on met toujours en garde. Les hommes qui ont des dons de prophétie peuvent aussi se tromper. D'où la nécessité des confirmations. Et ce n'est pas pour ça qu'on les rejette. Mais il faut le savoir. Il faut les aimer comme ils sont, avec leurs failles, comme Dieu nous aime avec nos failles. Mais hélas, cette parole de Jonathan, elle n'était pas prophétique, elle venait juste de son cœur. Et c'est triste. Et pour terminer, le verset 18 fait mal aussi. Ils conclurent tous deux une alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt. Et alors là, personne ne m'a parlé de ça. Où les vilains ? Et Jonathan s'en alla chez lui. Non mais ça fait pas mal ça. Deux amis les plus proches qu'on puisse imaginer, qui aiment le Seigneur tous les deux, qui sont obéissants au Seigneur, qui sont remplis d'humilité. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je sais que je vais me faire tirer les oreilles. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Mais pourquoi est-ce que Jonathan est parti ? Pourquoi est-ce que Jonathan est parti ? Rapidement, ça fait mal au cœur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des Jonathan dans nos vies parfois ? Des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent les promesses, qui savent tout ce qui est vrai, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui encouragent les enfants de Dieu, mais qui retournent à leur sécurité, à leurs devoirs ou peut-être à leurs habitudes et qui n'arrivent pas à changer radicalement pour prendre un autre chemin. Réfléchissez à ça. Est-ce qu'il n'avait pas une décision à prendre ? Comme David ? Avec David. C'est une question, je ne suis pas théologienne, mais on peut se poser la question. Jonathan sait que David va être roi. Il souhaite le soutenir et rester avec lui, mais il retourne chez lui. Pourquoi ? Saül le sait aussi, lui il va combattre. Les 600 hommes de David le savent, et eux ils ont décidé de le suivre. Pourquoi Jonathan ? Alors on en reparlera peut-être la prochaine fois, essayez de réfléchir. Si vous avez des idées, envoyez-les-moi. Pourquoi Jonathan n'a pas suivi et pas resté à la forêt avec David ?